En fait, c'est pas ça générique. Là, le background, après, c'est ce qu'ils expliquent. Les personnes.
Mais si, ils sont si nombreux.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue pour un nouveau podcast de Perdusa. Ce sera peut-être le seul de l'année, donc profitez-en.
Le premier, en tout cas.
On est trois autour de la table réunis pour parler de tout ce qu'a fait l'actualité des séries télé depuis quelques mois maintenant. Il y a Blackie qui ne peut pas participer au grand classement de la décennie de Perdusa, mais qui veut bien parler dans le poste.
Salut tout le monde.
Il y a Tom qui aime plus belle la vie.
Bonjour.
Et puis il y a Gégé, voilà, bonjour. On va commencer tout de suite, on va parler par la seule série de... On va parler de la seule série qu'on regarde tous les trois, c'est assez désespérant, non, c'est pas Big Love, non, c'est pas The Good Wife. Ah si, on regarde quand même quelques comédies
commun,
tous les trois.
Ouais.
Quoi, tu regardes The Middle?
Bien sûr.
C'est peut-être la comédie que je préfère de toutes en ce moment. T'as vu l'épisode de la Saint-Valentin?
Oui. Moi je dirais pas que c'est ma préférée, mais...
C'est laquelle?
Cette semaine, c'était vraiment la vieille Christine.
Ah ouais, non,
ah
non, non,
vraiment,
mais oui,
c'était,
ah, c'était démon.
Bon, après, si tu on regardes parle des nouvelles,
Christine,
oui.
Non. Et tu regardes pas, tu regardes Big Love et tu regardes la vieille Christine, le vieux parler avec la famille bien pourrie, bien atroce.
Et c'est dingue comment c'est devenu un soap, hein, la vieille Christine, parce que quand ils sont autour du gynéco et qu'ils commencent à parler de leur relation entre eux, tu te dis, mais comment on en est arrivé à ce bordel?
Et alors qu'il n'y a pas le côté feuilletonnant un peu pourri à la Friends où t'as les intrigues qui se suivent, machin. Bon, ils se marient une fois, on n'en parle plus, mais on sait qu'ils sont mariés, ils le réutilisent. Ouais, c'est super.
J'avais
super
complètement oublié que Richard était marié avec Barb.
Ah ouais, moi aussi.
Complètement. Quand il dit à la vieille Christine, oui, t'es divorcée deux fois, j'étais en train de réfléchir et de me dire, hein?
Mais c'est juste à mourir de rire. Non, mais par rapport à The Middle, j'évoquais genre les nouvelles comédies de l'année qui sont censées avoir renouvelé le genre et, ou en tout cas l'avoir réoxygéné.
Ah, je vogue entre The Middle et Modern Family.
Si tu dois faire un choix. Ah ouais?
Ouais, je vois que ça va dépendre
vraiment
Community.
Des épisodes.
Si, Community aussi.
Community,
si, c'est devenu tellement
aussi.
Bon.
Et pas Parks and Recreation? Ah ouais, c'est pas vraiment une nouvelle Parks and Recreation,
ah,
le
pardon,
truc avec Amy Poehler.
Excuse-moi. Mais c'est la saison 2, alors ça
c'est la saison 2, mais c'est comme une saison 1, tellement la première saison était pourrie.
Je regarde pas. J'avais essayé justement la saison 1.
Et... Bah, la saison 1 était vraiment super, super mauvaise. Il faut juste que tu regardes le premier épisode de la saison 2, où Leslie, elle marie deux pingouins. La bande-son est super, il y a Lady Gaga, enfin, c'est vraiment super.
Ah oui, c'est là.
Oui. Ça donne envie.
Non, donc ouais, on regarde en commun aussi Courtney Cox dans Cougar Town. Non,
ça c'est franchement nul.
C'est pas nul, non, c'est devenu un peu nul.
Il y a eu une amélioration quand même, mais oui. Ça redevient un peu débile, ouais. J'ai l'impression.
C'est plus du tout la série de départ. Donc c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec le titre en fait.
Oui, puisqu'elle sort pas avec des jeunes.
Non, bah non, finalement.
C'est juste une série sur un groupe d'adultes, vaguement adultes. Moi ça me stresse un peu les comportements hyper puérils de gens qui sont censés avoir 40-45 ans. Ça me stresse un peu sur c'est quand même un gros côté misogyne, quoi. Enfin, ça, et puis ça joue pas trop des clichés, les mecs sont des gros beaufs et les bonnes femmes sont des nanas désespérées, enfin en gros c'est ça.
Oui, alors tu as
c'est le contrôle fric, 4
désespérées qui se plaint d'être hideuse, etc., alors qu'elle est magnifique, elle est refaite de partout. T'as toujours la même chose avec la femme de Bill Lawrence qui a toujours le même style de personnage, chanteuse, râleuse. Tu te demandes pourquoi elle aurait se marier avec elle. Et puis sinon, tu as la conne, la white trash. Voilà. Super, quoi. C'est
donc vrai, je trouve qu'il n'y a pas assez de second degré. Enfin, je sais pas, je trouve que les personnages sont assez désagréables. Et que c'est pas suffisamment drôle quand ils essayent de faire des moments un petit peu profonds où on devrait sentir. Une espèce d'amour familier qui existerait entre Courtney Cox, son ex-mari, son fils. Enfin, ils ont tous l'air plus dégueux les uns que les autres.
C'est super superficiel en fait comme série. Alors que c'est vrai que les deux autres comédies que je regarde, qui sont Modern Family et Community, là je trouve que les personnages sont assez bons, assez travaillés. Enfin, souvent j'y crois. Tandis que c'est vrai que quand je regarde Cougar Town, j'y crois pas une seconde, non. Quoi. On ne croit pas du tout.
Et on n'a pas envie d'y croire, ouais. On n'a pas envie de faire l'effort supplémentaire qui nous permettrait d'être investi dans les personnages. Tandis que dans The Middle, Même si j'ai appris.
C'est vraiment bien.
Que comment elle s'appelle
La mère.
La mère, une espèce de grosse républicaine atroce.
Bah, elle était dans Tout le monde aime Raymond. C'est pas.
Bah, Ray Romano.
C'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez elle. Hein.
Moi, je trouvais pas ça nullissime, Tout le monde aime Raymond.
Aussi.
Bah, non, attends, c'était quand même une sitcom où il y avait plein d'enfants et ils parlaient pas.
Ouais, non, argument de choix.
Donc, non, mais malgré ce fait-là, oh, la série est super, super drôle. Les enfants sont déments. Mais la fille, je sais plus comment elle s'appelle.
Mince, tu viens de me filer l'intro. Sou.
Ek. C'est le meilleur personnage de série télé depuis la rentrée. En comédie. Qui passe sur ABC. À 8h le mercredi. Non, c'est vrai.
En HD.
Donc, bah voilà. Et dans les dramas qu'on a en commun, il y a.
Il y en a 15 seuls. C'est désastreux. C'est pas Big Love, comme on le disait. C'est pas Sons of Anarchy. C'est pas de bonnes choses. Hein.
Non, les temps sont durs. C'est la crise. On a besoin de ne pas réfléchir. Qu'est-ce que tu veux?
Je vais vous laisser vous lancer quand même sur ce guilty pleasure.
Moi j'ai envie que ce soit toi qui te lance parce que bah, ça fait un petit moment que Tom et moi on dit qu'on s'amuse devant, ça, on, voilà. Et toi qui râlais tout le temps, tout à coup tu as fini par passer du côté obscur.
Ça t'avait rendu accro donc.
Ça m'avait rendu accro, c'est-à-dire que j'ai regardé, je sais pas, en 3-4 jours.
On parle de The Vampire Diaries. Hein.
En 3-4 jours, les 10 épisodes que j'avais pas vus.
Oui.
Je suis quand même assez content d'avoir vu le dernier, puisque le dernier me rassure, puisque c'est peut-être le plus mauvais qu'il y ait eu depuis le début de la série. La série en elle-même n'est pas désagréable, parce qu'elle s'en sort relativement bien avec les deux personnages qui pourraient être les plus crispants, qui sont les deux personnages principaux, c'est-à-dire la fille et Stephen, qui... comment ?
Stéphane. Ça fait plus européen.
Je suis assez surpris par leur jeu et puis oui. par la façon dont ils sont écrits, c'est-à-dire que bon bah ils sont vraiment gentils mais ils sont pas complètement neuneux.
Non, et surtout la fille.
Au final le personnage qui me déçoit le plus c'est peut-être Damon parce que Ian Somerhalder a un personnage beaucoup plus flamboyant, finalement plus facile, et des trois il se révèle quand même l'acteur le moins solide. Et puis son personnage est quand même assez bizarrement écrit.
Mais les girouettes, c'est un personnage girouette qui fait n'importe quoi. Enfin, un coup il est gentil, un coup il est méchant. Et puis eux non plus.
Les réactions par rapport à son personnage sont assez étranges. Parce que bon, c'est quand même une ordure relativement finie.
Bah oui,
tout le temps,
qui a tué
en permanence. Et je comprends pas comment il réussit à créer suffisamment d'empathie chez d'autres personnages pour qu'ils ne se fassent pas buter par tout le monde, pour que ce ne soit pas l'objectif numéro un de tous les personnages.
Oui, je comprends l'intention. Je comprends qu'ils ont voulu un petit peu le rendre... lui donner un peu plus de gris là-dedans. Oh, Stéphane n'est pas si gentillet, il n'est pas si innocent. Et inversement, Damon n'est pas juste le vilain. Enfin, vraiment,
oui, ça c'est bien,
plus
mais...
de complexité, mais ils ont raté.
C'est bien, mais à la limite, ce qui est vraiment dérangeant, c'est que les personnages aient l'air d'avoir complètement oublié les massacres qu'il a fait dans les 5-6 premiers épisodes. C'est limite s'il ne tuait pas un être humain
mais
par épisode.
Mais
ils
se remettent vite, hein. Regarde Elena, elle a perdu ses parents, elle a fait se faire tuer 50 000 fois depuis le début de l'épisode.
C'est vrai que
son
ça
frère
va,
était
quoi.
Elle était droguée, il y a une de ses meilleures amies d'enfance, là, la petite sœur de son ex, etc., qui est morte, plein de drames et tout. Elle-même, elle se bat, elle tue des vampires.
Ouais, mais le truc, c'est qu'elle n'a pas le temps, elle
va au lit
s'arrêter.
Avec son copain,
elle n'a pas le temps de s'arrêter.
Tellement ça va vite, c'est aussi un des soucis de Vampire Diaries, c'est que ça va quand même trop vite.
Oui, mais après, elle se prend la tête parce que, oh merde, Stéphane, il m'a pas dit, mais je ressemble vachement à son ex.
Bah, il y avait
bon,
un côté
vite,
ça.
Hein.
Ça, moi, j'aurais compris à sa place. J'aurais été stressé.
Ouais, moi aussi.
Dans la même situation, de me rendre compte que mon mec a 150 ans avait couché avec quelqu'un d'autre.
Bah, on a tous un type. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait réfléchir quand même, parce que je me dis. Ça me stresse avec les histoires de vampires, là, c'est les bonhommes qui ont 50 ans qui vont sur les gamines de 20 ans. De 18 ou de 15, ça me stresse un peu comme... Mais quand t'as un physique de de gens de 17-18 ans, est-ce que ton esprit peut quand même évoluer?
Est-ce que tu restes un vieux con de 80 ans ou un jeune homme de 17 ans?
Difficile d'après les bouquins de Ayn Rice, dans son univers à elle, non. Tu te souviens, vous souvenez de la gamine qui, elle, avait 12 ans toujours physiquement et mentalement, elle avait fini par devenir une adulte, etc. Entretien avec un vampire, par exemple.
Ouais. Le personnage de Kristen Dunst.
Voilà, moi, c'est vrai que j'aurais tendance à penser un peu comme ça. Enfin, je veux dire, au bout de 150 ans, je pense que tu restes pas gamin dans ta tête, mais c'est sûr que où est-ce que tu vas trouver une autre copine de ton âge?
Ouais, non, mais et puis de toute façon, enfin, je pense que.
Même avec une femme de 40 piges, t'auras toujours l'air d'un pédophile. Hein.
Mais je pense que si l'idée, c'est qu'on se construit par rapport à la vision qu'ont les autres de nous, et donc, si on a.
C'est profond.
Non. Mais figure-toi que non. Et c'est-à-dire que si on a l'air vieux, bah voilà, on se trouve vieux. Eux, ils ont toujours l'air jeunes, donc ils sont toujours un peu jeunes. Enfin.
En même temps, vu qu'on lui.
Ils retournent au lycée, donc ça veut dire qu'ils aiment bien être jeunes, quoi. Enfin.
Non, c'était pour l'approcher. Et puis t'as vu, il y va plus depuis que.
C'est vrai.
Lui parle, mais.
En même temps, remettre à sa place le prof d'histoire pendant tout le cours. Hein.
C'est ouais, quand t'étais encore jeune et con, t'as fait une broutille en ne disant pas, mais en faisant deviner à papa que notre copine était vampire. Alors depuis, ça fait 140 ans que je t'emmerde. Voilà, mentalement, ils n'ont pas trop évolué. Non,
ouais. C'est sûr. Donc, bah voilà.
Non, mais à l'origine, on n'était pas là pour dire du bien de Vampire Diaries.
Non, parce que le dernier épisode n'est pas bien
aimé de Vampire Diaries.
Le dernier Vampire Diaries qui ressemble à un épisode de Charmed. On lit une petite incantation et puis il y a un décor en carton pâte qui s'ouvre.
Ah ouais.
C'était un peu
C'était juste triste. Ouais, et puis la tombe aussi. Ça faisait 4-5 épisodes qu'on nous en parlait.
Bah oui.
Moi, j'imaginais ça. Enfin, j'avais imaginé ça quand même un peu plus gore avec, 27 corps dans une espèce de cage avec une griffe, un truc un peu. Bon, alors, puis là,
puis moi, je me disais
c'est une espèce de grand loft énorme.
Mais moi, je me disais aussi que ouvrir le tombeau, c'était vraiment relâcher
l'apocalypse.
Alors qu'ils dorment tous, c'est pépère, on peut se balader là-dedans.
Tu peux donner ta goutte de sang à celui que tu as envie de réveiller.
Voilà, et puis les autres, c'est pas finalement très grave. C'était un enjeu majeur des derniers épisodes, on se disait surtout, faut pas qu'il ouvre. Finalement, il l'a ouvert, c'est pas bien grave, ça se referme. Et en plus, on peut l'ouvrir sans relâcher les autres, donc finalement c'est super pratique.
Donc il n'y avait pas de quoi être super stressé,
voilà,
d'aller ouvrir la tombe,
pas de problème, on peut juste au contraire l'enfermer dedans.
Mais il y a beaucoup de trucs illogiques dans cet épisode, et comme je vous disais tout à l'heure, mais que les auditeurs ne savent pas encore, c'est quand ils réfléchissent, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Moi j'ai déjà dit sur le forum, là, Catherine qui s'est barrée, qui se balade depuis longtemps, qu'elle n'a jamais cherché Démon et Stéphane n'ont jamais croisé, ils n'ont jamais entendu parler d'elle.
Mais après, ils sont combien? On ne sait pas ça, en combien ils sont les vampires dans Vampire Diaries. Peut-être qu'ils sont que 7 ou 8.
Ah bah justement, raison de plus, non?
On ne sait pas ça. Et puis peut-être que
Démon est allé voir des amis à lui, je sais plus, il y avait Lexi qui avait.
Puis il y en a toujours.
Une vieille pote qui avait transformé mec,
Et puis qui a eu un copain qui est devenu vampire, il y en a plein des vampires.
Oui, il y en a, ça arrive facilement. Et surtout, t'as un double.
Mais
Léna, je sais pas, mais tu dois être curieuse. Elle devrait être forcément dans le coin. Puis même, le problème, c'est que c'est Anna et Démon qui se battent. Oui, moi je veux le grimoire, non, moi je le veux. C'est moi qui vais ouvrir là, ton nœud, ce sera moi. C'est une bataille qui n'a pas lieu d'être. Il suffisait qu'elle lui dise. Au fait, ta copine n'est pas dans le tombeau, lâche-moi les baskets et je vais le faire toute seule. C'était arrivé.
Ouais. Et donc, moi je pense peut-être que Elena, c'est peut-être Catherine, la réincarnation.
Tu penses, c'est pas un peu ce que je t'ai dit il y a 2 heures.
Mais on pense, nous à Perdusa, on pense ça, voilà. Mais je le pensais avant que tu me le dises aussi.
Bien sûr.
Que quoi?
Elena, elle lui ressemble tellement, ça va être un truc comme ça, non?
Ça
en plus, sa mère, elle a été tuée par Démon.
Oui, mais toi, tu ne te souvenais pas de l'histoire du collier.
Oh,
le collier
alors,
jaune.
Ça va, vas-y, dis-nous ce que
Bonnie
tu veux dire.
A actuellement.
Eh ben oui, c'était.
Son collier magique,
c'était le collier de la mère de.
C'était
le collier de
Emily,
Catherine.
Son ancêtre.
Emily. Ah non, Emily, oui.
Et on la voit dans le flashback qu'il donne à Catherine. Elle lui dit, c'est genre. Oui, elle m'a dit que c'était un truc de protection. Et ça, c'est pas entré en jeu pour l'instant. Donc, je sais pas, peut-être que. Je veux dire, généralement, les descendants, ils ressemblent pas à leurs ancêtres comme de gouttes d'eau. Donc, il y a peut-être quelque chose, effectivement. Elle est peut-être devenue humaine à un moment. Ça se trouve, Elena, elle nous fait un gros baraton depuis le début.
Ah non, ça serait trop nul.
Ah, ça pourrait être drôle aussi.
Ah non, attends, ou elle a perdu ses parents peu... et tout. Et
ou c'est un peu à la Darla. Darla, quand elle était revenue, elle était morte en tant que vampire. Elle était revenue sous forme humaine.
Ouais, c'est vrai.
Donc il y a pu avoir un truc du style, enfin un peu... Là, ce serait marrant qu'il nous fasse un truc un petit peu compliqué.
Ouais. Mais non, elle a été adoptée, tout ça. C'est la fille de...
d'Isabelle.
De Mia Kirchner.
Ouais. Parce qu'il n'y en a qu'une sur la planète.
Bah oui, c'est pas un prénom qui est très courant, Isabelle.
Ah, ça, c'était une sacrée scène. Hein. Avec la tante. La tante, elle fait « Ah, mais c'est quoi déjà le prénom de ton ex-femme, celle qui est morte, là ? Isabelle. Oh mon Dieu, elle venait de péter à Schnock. »
C'est forcément, mais oui, tout
est... Bah, évidemment, tu peux pas avoir Mia Kirchner pour une guest star de 10 secondes.
Bah, pour nous, c'est évident, mais que ce soit évident pour le personnage, ça, c'est quand même...
Ben, c'est un petit côté méta dans la série, vachement bien. Donc, en gros, vous aimez pas cette série, vous la trouvez un peu nulle.
Si, on se marre, t'as vu comment on rigole, là, en parlant.
Mais c'est marrant, en fait, c'est très divertissant.
C'est marrant parce que c'est marrant du niveau de 24 et vous regardez parce que c'est nul. Moi, j'aime bien au premier degré, ça m'éclate les rebondissements.
Oui, moi aussi.
Oui et non, parce que je passe pas mon temps à me moquer des histoires de Vampire Diaries.
Non, mais
je suis vraiment prise dans le truc. J'ai vraiment envie de savoir qui est où est Catherine. J'ai vraiment envie de savoir quand ils vont ouvrir le tombeau, ce genre de choses.
Et en même temps, c'est pas non plus désagréable de se poser, de réfléchir et puis de se moquer. Donc en fait, c'est les deux. C'est pendant qu'on regarde, enfin moi c'est ça.
Ah, moi j'étais franchement déçu quand j'ai vu le dernier épisode parce que jusqu'à présent, on les voit les failles, les petites facilités. Mais jusqu'à présent, je trouvais que Vampire Diaries s'en sortait vachement bien dans le style feuilleton d'action un peu fantastique. Vachement mieux que True Blood par exemple. Parce qu'on n'approfondit pas les personnages, on va juste. Qui sont pas mauvais, mais c'est de la pure action, premier degré, et puis on y va, on assume, on s'amuse. Le dernier est vraiment décevant pour ça, parce qu'il est prêt à la moquerie.
Mais c'est vrai que c'est... Ouais. C'est la seule grosse série fantastique de ce style-là, un peu pour ados, facilement à prendre, à regarder, enfin... Et qui aussi ne se lance pas dans les l'honneur, parce que si on prend Supernatural dans l'une des trois séries fantastiques qu'on a à la télé, ce qui est quand même très peu, Supernatural, c'est moitié mythologie, moitié l'honneur. Oui. Tu peux en prendre un peu au hasard. T'es obligé de suivre Vampire Diaries. T'es obligé. C'est un gros futon. Ils se perdent pas dans des histoires de la semaine. Et c'est vrai que c'est tellement rare. On en a plus. On en avait plein dans les années 90 et maintenant on a plus ce style de
série. C'est après Lost. C'est après les succès de Lost et 24 qu'on en a eu plein dans les années 2000, des espèces de gros feuilletons, kidnapped et tout ça, là où il fallait pas rater un épisode.
Oui, mais c'était pas fantastique.
Et puis ensuite, tout. Ouais, mais parce que le fantastique, c'est un peu nul aussi. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup.
C'est tellement... Il y a quelque chose de tellement drôle, où vraiment, là, t'as pas envie de te dire c'est pseudo-réaliste. Quand t'as des vampires, des loups-garous et des sorcières, etc., tu te dis, bon, bah, c'est pas possible que tu sois en train de regarder... une série qui a vraiment envie de faire une réflexion hyper profonde sur le terrorisme actuel, sur le monde trop difficile dans lequel on vit.
Tu veux dire qu'il y a des métaphores dans Buffy, c'est pas des métaphores des peurs de l'adolescence?
Je parle pas de ça, je dis pas qu'il y a pas de métaphores.
Ouais, parce que c'est un peu la même chose.
Disons que ça se prendra un peu moins au sérieux. Et à la rigueur, la pilule passera mieux. Si t'as des parallèles de ce style, et ben, tu peux les ignorer facilement si t'as pas envie de te prendre la tête. Il y en a plein qui ont regardé Buffy en ignorant tout le sous-texte. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et il y a des gens qui ont regardé Dollhouse en n'ignorant pas le sous-texte.
Je suis très fâchée avec Dollhouse.
C'était vraiment
pas bon. Je refuse d'en parler aujourd'hui.
Pourquoi? Vas-y.
Mais t'as pas regardé la fin?
Non, mais bon.
Ah, d'accord.
Bah, c'était pas très bon sur la fin et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout aimé le final.
Non,
qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi.
C'était vraiment... Alors, c'est vrai que c'était ridicule visuellement, on se croyait dans Mad Max, plus pauvre.
Alors que
c'était
le
quoi,
premier...
l'esprit d'Epitaph
C'était Epitaph 2, c'était au même...
Pas dans l'esprit, après. On l'a pris pour excuse pour continuer, mais c'était... Ouais.
Alors que Epitaph 1 avait très bien suggéré le fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de budget, puis qu'ils tournaient essentiellement que dans le studio de la Dollhouse, là, ils n'avaient pas l'air non plus d'avoir des tonnes de budget, mais c'était à l'extérieur. Il y avait des trucs ridicules, comme Victor, qui avait une espèce de... C'était quoi, un truc qui lui changeait de personnalité, en fait, c'est ça?
Il y a des pins sur
la planche. C'était bête. En plus, c'est tellement le meilleur acteur. J'étais très déçu qu'ils en fassent un truc ridicule comme ça. Et
c'est pas juste visuel, c'était
donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les résistants qu'on avait connus dans Epitaph One rejoignent les héros de la série, qui sont toujours en vie, et qui sont dans un espèce de repère assez bien gardé, où ils ont des enfants et tout. Et Adèle, elle est un peu la meneuse de famille. Et puis, donc, ils se disent que...
Les enfants, il y en a un.
Ouais, je sais plus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils récupèrent Topher, qui avait été... Topher, donc, tu vois qui c'est, Topher qui avait été prisonnier. Et Topher, il a une super solution pour libérer tout le monde de la... du fait que tout le monde est devenu des poupées. C'est une espèce d'impulsion générale qui rend les personnalités originales à tout le monde. Et donc, ils décident d'aller à la Dollhouse pour le propager. Il y a quelques morts et finalement, l'histoire se finit bien.
Grosso modo, il y a une solution hyper facile pour régler le problème. Voilà, tout se règle. Tout le monde a un happy end quasiment. Alors, t'as un mort parce qu'il faut toujours qu'il y ait un couple qui soit détruit.
Mais finalement, forcément. C'est pas si grave puisque.
Il y a Anya qui revient pour mourir une deuxième fois.
Non, c'est pas. Ah non, mais c'est vraiment, on fait plus ou moins des happy end à tout le monde, on règle tout ce qui nous plaisait pas, on a envie que ça finisse bien.
Et puis même le mort, c'est le gars de Battlestar Galactica, là, qui était donc avec...
L'enquêteur.
Voilà, il se fait buter, mais tout va bien parce qu'il avait sauvegardé un peu de sa personnalité pour que Echo, elle le télécharge, puisqu'elle peut...
Donc elle l'a dans sa tête, elle est heureuse.
Donc elle l'a dans sa tête, donc finalement il n'est pas si mort que ça, et il reste avec elle pour toujours.
Parce qu'il tombe amoureux d'Echo.
Oui, ils sont un petit peu amoureux, mais depuis le début quand même.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que... La série a complètement changé de toute façon de direction en saison 2. Et là, c'était vraiment... Ça se dit, Pitoune ? Enfin, ça résumait bien, c'était le cœur du problème de cette saison 2, à quel point ça s'était barré n'importe quoi, dans n'importe quelle direction. Et ils ont voulu régler ça, et...
C'est moi, j'ai arrêté
de regarder. Encore plus les défauts, ça te...
En début de saison 2, et apparemment ça devenait vachement bien juste après.
Ça allait aussi très très vite, il y avait un super bon rythme, des rebondissements qu'on voyait pas vraiment venir puisque les personnages changeaient d'avis toutes les 5 secondes. Adèle, elle a été méchante et gentille 15 fois. Et donc finalement c'était assez prenant, mais dans les 3 derniers épisodes ils ont fait n'importe quoi.
L'avant-dernier n'est pas super bien.
Non,
il s'embourbait à vouloir faire des conspirations où il faut absolument trouver quelqu'un, l'un d'eux, qui est un méchant. Peu importe le fait qu'ils avaient tous des motivations diverses, ils étaient tous plus ou moins ni gentils, ni méchants au début de la série.
Gris, voilà,
c'est un peu plus complexe que ça. Là, on a vraiment voulu te mettre des gentils, très gentils d'un côté, et un gros méchant qui tombe de nulle part de l'autre côté.
C'était Boyd.
Et c'est n'importe quoi.
Le
et
copain Echo. De Echo, enfin celui de Sonic. Ouais, voilà, c'était lui le gros conspirateur. C'était lui Echo, à la tête de Rossum. Ouais.
Oui, mais c'est lui qui a voulu mettre Caroline là-dedans. Je sais pas pourquoi, parce qu'il veut que la Rossum... elle marche, mais en même temps, il dit qu'elle est la clé pour sauver tout le monde. Donc, t'as envie de dire, dans ces cas-là, pourquoi tu mets pas la clé sous la porte, puisque t'es chef. Enfin, on comprend pas du tout pourquoi il voulait arrêter sa propre corporation. Enfin, pourquoi il l'a mis là-dedans. Pourquoi est-ce qu'elle est la solution, à part faire sauter un building.
Et puis, en plus...
Voilà, après, c'est Topher qui trouve la solution dans le dernier épisode. Donc, en gros, pourquoi c'est la sauveuse du monde ? On sait rien.
Non,
c'est juste parce qu'elle avait 40 personnalités. Ouais,
super. Et encore, ça, si j'ai bien compris, c'est grâce à lui. C'est lui qui l'a aidé à développer ses 40 personnalités. Enfin, il pouvait pas le savoir à la base qu'elle développerait 40 personnalités.
Apparemment, si, elle avait un truc génétique.
Ah ouais. Ah oui, le truc de la moelle épinière qu'on a rien compris.
Comment ça se fait qu'il l'a pas vu chez Alpha, hein, voilà.
Ah bah oui. J'ai oublié ça. Et Alpha, pourquoi il était
mais
là?
Mais c'est illogique.
Pourquoi il était gentil?
Qui a écrit ces épisodes? Est-ce que c'est Joss Whedon?
Non. C'était pas lui qui était...
C'est pas Joss qui a écrit le dernier ?
Non. Ah ouais, je vérifie.
C'est qui alors ?
C'était... Non, tu vas pas vérifier.
C'est Studio Jed.
Mais, mais je crois que c'était un des Whedon quand même, qui était... qu'il avait écrit. Mais donc
en gros, on arrive à la conclusion que Joss Whedon...
Il a fait une série qui a duré 11 mois.
De quoi ?
Hein ?
Il n'aura jamais le talent de son père.
C'est qui son père ?
Qui est Tom Whedon, un des scénaristes de Golden Girls.
Mais j'ignorais.
Donc je me refais l'intégrale en ce moment.
L'un des scénaristes, ça veut pas dire showrunner.
Hein ?
L'un des scénaristes, ça veut pas dire showrunner.
Et alors ?
Bah, et puis il a pas rien fait d'autre chose. Dans ces cas-là, on s'arrête à Buffy pour Joss. Buffy bat Golden Girls, excuse-moi.
Ah non.
Ah si.
Je pense que t'as pas vu les Golden Girls.
Si, j'ai tout vu des Golden Girls. Si,
t'es déjà tous vu.
J'adore Dorothy. Mais.
Non, mais donc, enfin voilà, Dollhouse, en fait, en même temps, c'était comme ça a duré même pas un an comme série. Moi, j'ai bien aimé que ce soit une histoire complète en 11 mois et que voilà, ça dure pas des années. Voilà, c'est fini. Joss. C'était Joss.
C'est Joss.
Le dernier.
Oui.
Non, c'est.
Ah, non, pardon, non, non, c'est Morissa.
IMDB peut-être.
C'est Morissa et Jed, ok.
Voilà, il y avait un Whedon, j'avais bien lu.
Les gars, les gens qui malheureusement ont fait l'épisode où Eliza chante. Oh, je vous aime, Mo Jed, mais alors là, non.
D'accord. Bon, bah voilà, donc Dollhouse, c'est un peu à oublier, quoi.
Non, 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 mais il fallait que ça finisse, même s'il y a beaucoup de gens qui vont me manquer. Tant pis, on les verra.
Et est-ce qu'on peut espérer ne plus jamais avoir de série de Joss Whedon?
Ben, on peut espérer en fait avoir une série de lui sur FX.
Oh,
parce
FX,
que ça fait partie de Fox. Et sur FX, il aurait le contrôle total. Donc il paraît que c'est en négociation, qu'il avait un petit rendez-vous, un petit dîner avec le mec qui dirige FX. Donc moi, je préférais qu'il soit sur le câble. Au moins il ferait son truc et si merde, il y aurait plus d'excuses, il y aurait plus de.
Bah alors en gros, mais la Fox l'a laissé bien bien tranquille après les deux. La deuxième saison, ils lui ont dit tu fais ce que tu veux avec 13 épisodes, ouais, on s'en fout.
Comme il s'était embourbé dans des trucs avant.
Bah oui.
Enfin, je pense que de toute façon, il y avait un problème dès le départ, c'est vrai.
Le concept.
Il a décidé de faire une série sur Eliza Dushku. Là déjà, il y avait un blème.
Voilà. On peut pas faire.
Non, non.
Donc, enfin, bref, bah, on regarde.
Pardon, Survivor.
Ah, bah, allez-y.
Ouais, Daki, elle est à fond.
Bah, oui, hein, 20e saison, 10 ans, voilà quoi. Mais c'est toi qui es le meilleur pour en parler, mais à quel point Survivor c'est important.
Non, parce que là, je sens que mon enthousiasme n'est pas de ton niveau, Blacky, parce que quand elle parle de Parvati.
Parvati.
Bah, celle qui a gagné.
Ma sœur jumelle.
Voilà.
Ma sœur spirituelle, on va dire.
Elle me fait un tout petit peu peur, c'est pour ça que. Bah, laissez parler tranquillement de Parvati. Et c'est à quel point elle est belle, tout ça, comme elle. Bon, pour info, hein. Blacky a quand même dans les cheveux un buff Survivor.
Si tu avais retrouvé les tiens,
tu l'aurais fait. Je suis arrivé avec une heure de retard. J'ai retrouvé le pauvre Tom qui agonisait puisque Blacky a essayé de lui faire les 20 saisons résumées en quelques clips de YouTube. Ça va lui servir d'excuse pour continuer à regarder Plus belle la vie à Tom, mais en tout cas, elle est à fond. Pourquoi t'es tellement à fond? Ça ressemble à une All-Star. Les dernières All-Stars, c'est pas si génial que ça.
Bah, si, c'était Micronésia. Et c'est quand Parvati a gagné.
Bah ouais, mais cette saison elle a quand même un souci, c'est-à-dire qu'en face de joueurs avertis, oui, on avait mis une palanquée de débiles. C'est un peu comme la saison 19, hein, où il y avait Russell et les autres.
Oui,
il n'y avait pas un qui avait un seul cerveau.
Comme beaucoup des dernières saisons. C'est vrai que la saison qui m'a le plus enthousiasmé, c'était Micronésia.
Ouais.
Même si c'est vrai qu'ils étaient nazes, les fans, ils ont apporté des moments tellement drôles. Le gars qui prend un bout de bâton et qui croit que c'est l'immunité. L'immunité. L'autre idiot là, avec les cheveux blonds,
qui donne son collier.
Qui donne son collier, mais qui se fait avoir par toutes les femmes comme un pauvre idiot. Enfin, il y avait vraiment des grands moments. Mais c'est vrai que là, bah, c'est bien de revoir des gens qu'on aime bien, ou qu'on déteste, qu'on a envie de se faire écrabouiller. Comme Amanda, j'aimerais bien la revoir encore en finale pour se planter. Comme
il a été super, James, pendant le conseil tribal. Quand il dit « Oh, c'est bien, c'est la première fois que tu réponds bien une question. »
Par contre, il y a des petits problèmes avec cette saison, c'est que, comme par hasard, les héros trouvent 4 poules qui se baladent. C'est les 4 poules qu'ils ont perdues depuis plusieurs saisons ou quoi?
Moi aussi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit que c'était un peu étrange que d'un seul coup, on ait 4
poules. Poules sauvages maintenant.
Oui, et puis 4 coqs, puis un coq et 3 poules qui pondent des œufs. Enfin, c'est pareil, un peu bizarre. Après, je connais pas la faune de l'océan Pacifique ou l'océan Indien. Je passe pas vers Bornéo.
Ouais, enfin, en tout cas, vu le
Paolo,
coin. Au bord de la plage, généralement, il n'y a pas trop des poules qui se baladent.
Enfin, j'en sais rien. En tout cas, ils ont eu bien, bien beaucoup de choses. Mais de toute façon, il y avait aussi un doute hein, sur le requin que bute Tom dans la saison 10.
Pas vu.
Bah, en gros, il y a un requin, il le tue quasiment à main nue et il amène 150 kilos de viande.
Amanda a fait la même chose. Ah bon? À Micronésia. Elle ramène un requin et puis d'ailleurs, Ozzy a fait « Ah, ça y est, je l'aime !» Elle est formidable, elle ramène un requin.
Bon, mais donc, 20e saison, c'est la célébration de la réussite totale de Survivor qui écrabouille toutes les séries scriptées depuis 10 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend de cette saison? C'est un peu con.
De voir le si principe... on a vraiment des très bons joueurs. Moi, c'est ça aussi. J'ai envie de voir des très très bonnes stratégies. Parce que ça fait plusieurs saisons là, qu'on se tape à peu près 2 ou 3 où on a des gens qui ne savent pas bien jouer le jeu. Je comprends la frustration de Russell la dernière fois parce que t'as des gens qui... C'est comme si c'était la première saison, ils s'amènent, c'est... Oh, bah, j'ose pas voter des gens parce que lui, je vais le voter parce que je l'aime pas. Enfin, j'ai envie de voir des gens qui savent où ils sont, qui n'en ont rien à cirer de trahir tout le monde et qui sont dans le jeu depuis le premier jour, quoi. Et puis qu'on perd pas aussi du temps à les présenter, c'est vrai que c'est un avantage. Donc, c'est vraiment le haut du panier. Là, on est bien dans le jeu, on part tout de suite.
Ouais, moi j'ai un peu peur parce que j'aime vraiment bien les héros en fait. Bizarrement, moi j'étais à fond pour eux. J'étais super dégoûté quand ils ont perdu le puzzle là.
Ah, moi non. J'étais contente parce que c'est vraiment. Les héros, c'est vraiment une bande de moralisateurs qui se croient supérieurs à tout le monde. Ils croient qu'il faut être gentil pour gagner Survivor.
Mais non, ils le savent tous et puis ils le disent tous.
Ah, ils ont ces égos.
Bah, n'importe quoi.
Alors que les vilains, eux, t'as vu comment ils se marrent, ils en ont rien à cirer.
Ah non, mais ils sont, moi, je les ai trouvés justement un peu cons, genre, on y va, on va les buter dans le premier jeu, là, où ils sont hyper violents, limite...
un peu trop, ouais.
Limite pas fair play, que Jeff Probst, ça l'amuse un peu, qu'on ait des épaules déchiquetées et tout ça. Bon, alors moi, je dis pas...
Parvati a pas vraiment déchiqueté son épaule. C'est Stéphanie elle-même qui a fait ça, qui a donné un coup en arrière,
ouais,
et qui a commencé à moitié
déboîter toute seule. Elle s'est déboîtée toute seule. Non, mais c'est vrai que c'était hyper violent, et je sais pas, ça m'a pas... J'aime pas trop la personnalité des vilains, genre, on peut faire n'importe quoi pendant le jeu. Ça m'a rappelé le mec qui était atroce, mais c'est la saison dernière, ou la saison d'avant, le type, il donnait des coups de pied aux gens quand il était par terre, et tout ça. Tu te rappelles pas, il y en avait un qui était super mauvais joueur dans les épreuves. Et c'est ce type horrible.
Randy ?
Non.
Bon, bref. Et puis moi, j'ai un peu peur que les mecs prennent le dessus sur les filles super vite.
Dans les vilains, je crois pas.
Parce que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer dans tout le début de la première saison, c'est qu'ils vont virer les joueurs les plus faibles. Ils vont virer Danielle en premier chez les vilains. C'est sûr, elle sert à rien.
Ça dépend parce qu'ils ont hésité, par exemple, les héros avec Sugar. Et j'étais d'accord avec eux, mais je crois que c'était à cause du montage parce que finalement, je crois que c'était pas tellement une bonne tactique. Elle s'est bien débrouillée pour une fois.
C'était Siri qu'il fallait virer.
Siri, elle est pas bonne du tout physiquement.
Physiquement, elle est nulle. Au puzzle, elle était nulle aussi.
Aussi.
Et moi, j'aurais été désespérée à qu'elle vire. Moi, je l'adore.
Ouais, c'est sûr. Je préfère avoir des gens vraiment bons stratèges sur le long terme. Parce qu'au moins, il y aura plus de suspense pour nous.
Et c'est pour ça que Tom, qui est un survivor que j'aime pas beaucoup, sa stratégie de virer la compétition, mais féminine, et c'est ce qui risque de se passer tout de suite.
Ils vont virer
toutes les femmes un peu dominantes très rapidement. Enfin, c'est ma peur. Et Pavarti, à mon avis, elle va pas faire longtemps... chez les.
Elle s'est déjà alliée à Russell, qu'elle a capté tout de suite, hein, parce qu'elle est formidable!
Qui est-ce qu'il y a comme autre fille? Eh bien, c'est pas terrible ce qu'il y a chez les vilains comme fille.
Bah. Courtney, c'est pas une menace.
Mais c'est
pas une menace, elle.
Mais Jerry, elle est demeurée en question stratégie. Hein.
Mais je la connais
c'est
pas
juste
encore.
Une bitch, c'est juste une poufiasse. Hein.
Oui, mais elle commence un petit peu à tomber amoureuse de coach. Apparemment, il y a un problème chez elle à ce niveau-là. Ils sont mignons tous les deux.
Ah non, ils sont horribles.
Mais oui, donc coach, bizarrement, il est con comme ses pieds, mais les gens le gardent justement parce qu'il est con.
Ah ouais,
donc il va vouloir garder Jerry. Russell, il s'est allié à Daniel et à Parvati, donc je pense que ça peut être fort aussi. Rob, il est un peu tout seul.
Ah là là là. T'as...
Randy, la personne. Hein. Randy, personne ne voudra de lui. Je pense que ce sera Randy.
Remarque.
Il est nul en stratège, il est nul en immunité. Tout ça parce que c'est un gros con râleur, ils l'ont pris. Pour la saison.
Et t'as vu la bande-annonce pour l'épisode suivant ?
Oui, on nous fait croire que Rob va mourir.
Moi, je suis hyper inquiet.
Mais non. Au Qu'est-ce pire, il sera évacué, mais attends, sinon ils auraient arrêté l'émission hein, s'il était mort.
Ah, mais je ne voudrais pas qu'il soit mort, mais là.
Je pense qu'il y a une nat coco qui est tombée dessus, puis c'est tout. Hein.
Mais il va se réveiller, il va pouvoir jouer et gagner quand même.
Dans le générique de cette saison, on voit Rob tout plein de boue. Alors je me suis dit, ça c'est une épreuve qu'on n'a pas encore vue. C'est qu'on va le revoir. Hein.
Ou alors, attends, c'est une épreuve de All-Star ou de Marquesas.
Ah non, il te montre des images de cette saison.
T'es sûr?
Oui, je les ai étudiées. Bien sûr.
Et donc, Blackie ne regarde que Survivor, Vampire Diaries et une série canadienne avec des vieux.
Les drums n'est pas là.
Des vieux humoristes qui ont eu un peu de succès au début des années 90. Et qui font une parodie de Twin Peaks. C'est de ça dont tu voulais parler avec Dom, c'est ça?
C'est ça, mais tu le dis comme si c'était nul.
Je sais pas.
Ce sont des grands humoristes canadiens qui ont marqué les années 90. Comme plein de choses formidables.
Alors qu'il y a qui dedans?
Bah, il y a Dave Foley.
Dave Foley.
De News Radio.
Ah, le gars qui joue au poker, c'est ça? Et qui a pris 25 kilos en 5 ans.
Oui, il a pris du poids, oui. Mais il est vieux maintenant. Hein. Ils sont tous vieux, maintenant. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils en jouent dans leurs nouveaux personnages. Avant, ils faisaient des personnages jeunes, des secrétaires, des célibataires, trucs comme ça. Maintenant, ils prennent comme personnages plus des gens qui ont une famille. Et vraiment, la petite communauté canadienne moyenne. Et,
c'est
ils sont drôles. Bah, ils incarnent plusieurs personnages. Et voilà. Et c'est drôle, quoi.
Il y a qui d'autre?
Tu les connais pas. On les connaît pas. Ils sont pas connus vraiment en dehors de ce groupe. Quand Drum reviendra au prochain podcast, il en parlera beaucoup mieux.
Mais il reviendra jamais, Drum.
Mais si, il reviendra un jour.
Non, de toute façon, il est passé au village, Drum. Il regarde plus que Doctor Who et.
C'est vrai.
Et Catherine Tate Show et. Quelle série anglaise? Spooks.
Oui, il est à fond dans Spooks.
Au moins, il a pas plus belle vie. Je regarde pas que Plus belle la vie, je regarde The Good Wife aussi, comme toi. C'est grâce à toi d'ailleurs.
C'est
toi
qui m'as donné envie.
Non, mais c'est vrai que c'est super bien. Hein. Puis, comme tu l'as dit dans ta review, les défauts ont été gommés. Les facilités, disons. Parce que c'était pas vraiment des défauts, c'était des facilités. Non?
Ouais, bah si, mais une facilité c'est un peu un défaut.
Oui, c'est vrai, mais enfin, ça gâchait pas forcément le plaisir de voir Juliana Margulis résoudre des enquêtes. C'est
ouais.
Toujours sympa, puis elle a un personnage génial.
Ouais, son personnage est vachement bien. Et puis ça avance relativement vite,
ouais.
Mais ça avance à un bon rythme.
Il y a un rythme très correct.
Ouais, c'est pas Vampire Diaries, ça va super vite. Non, mais c'est pas qu'un défaut de Vampire Diaries. Enfin, il y a beaucoup de séries maintenant où ça va vraiment super, super, super vite.
Pour Vampire Diaries, c'est plutôt un avantage parce que ça te donne pas le temps de réfléchir aux incohérences. Non, mais c'est vrai. Hein.
Et The Good Wife, c'est vraiment bien. Moi, je suis vraiment fan du personnage d'Alicia, que je trouve sobre, digne. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'ai pas trop l'habitude de voir à la télévision parce que, enfin, t'as fait la comparaison avec les vieilles de Desperate Housewives, enfin, qui sont tout le temps hystériques, tout le temps dans l'excès. Elle est tellement, tellement digne, tellement réfléchie, je l'adore. J'adore son personnage et à chaque fois que les scénaristes la mettent dans une position délicate par rapport à la morale ou enfin dans l'épisode que tu as revu, elle devait défendre quelqu'un qui avait peut-être tué sa femme et qui n'arrêtait pas de faire des blagues dessus et elle arrivait à être assez digne par rapport à ça alors que enfin, j'imagine Lynette dans cette situation faire péter un câble tout de suite. Enfin, c'était vraiment génial cette série.
Non, puis on sent que la mythologie de la saison, enfin le grand arc qui va sous-tendre toute cette première saison est quand même super super bien maîtrisé. Ça nous offre des scènes de prétoire qui sont vachement bien aussi, parce que moi ça c'est un côté qui me manque à la télé, hein. Dès qu'il n'y a plus Law & Order qui est diffusé, on n'a plus de séries judiciaires, plus de scènes de prétoire,
Et là, on a vraiment, vraiment un bon procès, une bonne affaire qui s'étale depuis maintenant, depuis 14 épisodes, qui tient la route. C'est un peu Murder One, The Next Generation, avec un procès sur toute la saison, enfin une affaire juridique sur toute la saison, et à côté de ça, des petites affaires chaque semaine. Certaines peuvent révéler, enfin avoir des correspondances avec
la vie
l'intrigue en cours dans le grand arc.
Et puis aussi, j'adore ses enfants. Parce que c'est souvent, c'est rare aussi que les enfants soient pas complètement insupportables dans une série.
Bah, il faut regarder The Antidote, tu sais.
C'est exactement ce que je pensais.
Ah oui. je m'y mettrai en même temps que Poubelle la vie. Et en même temps, qu'ils sont parfois un peu malsain, enfin ce qu'ils ont fait avec la baby-sitter.
Comment ça, tu penses qu'ils ont une relation incestueuse
pour attirer Tigrou?
Qu'est-ce qu'ils ont fait, la baby-sitter?
Tu te souviens, ils l'ont virée parce que elle avait découvert qu'ils avaient les photos de son père avec une prostituée, et ils ont dit qu'elle les avait invités à parler de je sais pas quoi. Enfin, de relations sexuelles, enfin de protection, tout ça. Et Alicia, elle avait un peu pété un câble et elle l'avait renvoyée très dignement. Mais
donc elle est digne puisqu'elle ne veut pas que ses enfants abordent les rapports sexuels protégés.
Avec leur babysitter.
Avec des adultes.
Des adultes. Elle veut qu'on parle en famille, mais pas avec la babysitter, un peu bizarre.
Ouais, et moi ce qui me plaît aussi beaucoup dans. C'est une série de CBS, donc j'ai toujours un peu stressé sur le fond idéologique de ces séries, et dès qu'il y a un petit élément qui pourrait faire croire que ça vire dans il se drogue, donc forcément c'est un tueur en série, il y a toujours un contrepoint du côté des héros. Dans l'épisode de cette semaine,
celui qui vient de Gilmore Girls,
il est défoncé aux champignons pendant tout l'épisode, il joue avec sa crâne.
Et puis elle a dit t'inquiète pas, j'ai rien dit.
C'est vachement bien, enfin c'est.
Il y a qui de Gilmore
Girls? Logan.
Ah.
Ouais, mais.
Ah bah mince.
Mais tout le monde est vraiment bon dans cette série. Et puis les seconds rôles sont. C'est débile ce que je vais dire, mais ils sont super bien écrits.
J'adore l'enquêtrice aussi de la
film. Ouais.
Elle s'appelle comment son?
C'est super à la mode, les Indiennes là.
Oui. Un peu, comme dans Greek.
Toutes les séries de USA, le Network.
Je regarde pas.
Ils ont beaucoup d'Indiennes en ce moment.
Ah ouais?
Hein?
Ouais, dans White Collar, il y en avait eu.
C'est qui l'Indienne dans White Collar?
La lesbienne qu'on a plus vue, mais qui paraît qu'il va être vue.
Elle était dans le pilote, elle a disparu. Burn Notice.
Dans le truc de cet été aussi, avec les médecins, là, Royal Pains.
Ah ouais, non, j'ai pas vu.
Il y avait une Indienne aussi.
Mais non, mais c'est même une blague, c'est une blague qui est faite dans. Dans The Good Wife, à un moment donné, ils enquêtent sur un réseau de prostitution et donc l'enquêtrice débarque chez une mère maquerelle ou je sais pas quoi, et elle regarde sa peau et fait j'aime bien votre couleur de peau, très à la mode en ce moment. c'est vraiment futé, c'est vraiment une série futée qui a les qualités des séries des années 90 et des années 2000, enfin de tout, c'est la meilleure série qui passe sur les networks en ce moment. C'est vraiment vachement bien.
En termes de drame. Parce que sinon, ce serait plutôt les comédies en ce moment.
En termes de drame,
oui, c'est le meilleur.
D'ailleurs,
drama.
CBS, dans The Big Bang Theory, ils ont un peu râlé sur la Fox cette semaine. Je crois que c'est l'un des grands moments qui m'a fait le plus rire. Oui, en fait, Sheldon commence à râler sur son copain et à nommer trois traîtres célèbres. Et il donne un nom et l'autre lui fait « C'est qui ce mec ?» Rupert Murdoch. Il lui fait, c'est l'un des plus gros traîtres, il lui dit, c'était le patron de la Fox qui a annulé Firefly. Enfin, bon, c'est pas drôle comment je le raconte, faut regarder l'épisode évidemment, mais voilà. Un personnage de la CBS qui râle sur la Fox et sur l'annulation de Firefly, moi je trouve ça génial.
Parce que Firefly c'était une série.
De la Fox.
De la Fox,
ouais.
Oui. Et c'était bien cette série? C'était très bien, oui.
Des cow-boys dans l'espace,
avec diffusé dans le désordre.
Ouais, enfin moi j'avais vu le premier épisode.
Elle devait être quelque part dans le top dans lequel j'ai pas participé.
Pas très très haut quand même. Tu t'avais voté, Firefly je pouvais être dans le top 5 ou un truc comme ça, et Mad Men passer dans le top 10.
Bah ouais, mais c'est pas de ma faute si vous faites des tops au moment qu'il faut pas.
Et je sais pas pourquoi du tout j'y pense là maintenant. Bah, c'est parce qu'on est en train de parler de drama réussi. L'épisode de House de cette semaine, il est génial. C'est un épisode centré sur Cuddy. Où on voit son boulot, où on la voit, on la suit pendant 24 heures, on voit toute sa journée. Et donc on voit les intrigues de House, mais qui prennent, je sais pas, 5% de son temps, où elle lève les yeux au ciel, elle interdit à House d'injecter la malaria à un individu parce qu'il a décidé de le faire. Et c'est vraiment vachement bien. Moi j'aime vraiment beaucoup House. Non, personne ne regarde
non,
House.
J'ai arrêté après le season premier.
Ah bon?
J'étais occupée, il y avait tellement de trucs à la rentrée et voilà, j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Non, mais je compte m'y remettre de la Glee, jamais, non, jamais. Plutôt avoir la malaria, oui.
En tout cas, d'un point de vue des drames, je sais pas, je trouve que cette saison sur les networks, elle s'en sort plutôt pas mal. Glee Betty connaît sa meilleure saison. House reste plutôt vachement bien, mais là c'est.
T'aimes bien le début de Lost, de la dernière saison?
Non, mais je suis assez content que Lost me donne raison. Enfin, j'avais détesté les trois premières saisons.
Ouais.
Mis à part le pilote et les saisons premières. Et j'aime bien la saison 4 et la saison 5. Et puis, ouais, c'est vrai que là ça commence super mal.
Ouais, c'est Lost. Très nul, hein. C'est chiant, c'est du déjà vu, et puis je trouve que ça a aucune classe. Enfin, les décors sont nuls, les effets spéciaux sont nuls, et les acteurs sont pas du tout convaincants, et pas convaincus non plus. Enfin, je veux dire, l'une des meilleures, c'est la coréenne, là. Elle a trois pauvres lignes sur la plage,
on la voit
à dire.
Pas. Et moi, je comprends pas le nouveau mécanisme des flash quelque chose où c'est la
réalité parallèle.
Parallèle. et ouais, Jules a dit aussi. Enfin, on imagine que de toute façon cette réalité elle va exister, que ça va être lié à l'intrigue générale. Le souci, c'est quand même que les scènes qu'elle nous offre sont relativement pénibles, inintéressantes.
Pénibles, ouais, pour.
Vas-y. Et à côté de ça, sur l'île, on n'a plus affaire qu'à quatre personnages de Lost qui vivent dans une espèce d'intrigue débile avec un fou manchou, là, je sais pas quoi, là,
qui sait parler anglais mais qui veut être traduit.
Le mec de John Lennon avec des dialogues relativement sibyllins à la Matrix, genre prends la pilule et tout ça.
C'est oui.
Très bizarre.
C'était nul, ça aussi.
J'étais un peu déçu du sort qu'ils ont réservé à Juliette, qui avait eu une fin,
oui,
une fin assez exceptionnelle. Enfin, ouais.
Très correct.
C'est un personnage, l'un des seuls personnages rapportés, que Lost avait réussi à intégrer dans la série. Son départ était admirablement bien géré, et je comprends pas pourquoi ils ont repassé un épisode à le faire mourir une deuxième fois.
C'était très bien.
Si ce n'est à donner à Josh Holloway des scènes où il s'en sortait correctement. Moi, je trouvais, je sais pas ce que tout le monde a avec lui.
Il est très bon depuis un an.
Mais ouais, là, ça m'intéresse moins que Greek en ce moment.
Oui, c'est vrai que Greek, c'est bien. C'est toujours très drôle, toujours très frais. Et ça a pas l'air de vouloir. Descendre au niveau qualité, c'est...
Je crois que ça va être bientôt annulé, hein, parce que ça marche plus très bien.
Ah non, zut. En même temps, ils peuvent pas rester des années à la fac, j'ai l'impression qu'ils repoussent à chaque fois leur sortie de la fac, à chaque début d'arc de 10 épisodes. On apprend qu'ils en ont encore un peu plus longtemps que prévu. Mais non, c'est toujours bien, Gris, c'est toujours drôle. Même le dernier épisode, j'ai beaucoup aimé toutes les intrigues. Alors que des fois, j'ai toujours un peu... une petite faiblesse quelque part entre deux intrigues. Hein? Là, c'était très bien. Oui, bah oui.
Ce serait quoi une intrigue faible dans Greek?
Depuis la saison 2.
Par exemple, quand Rusty et le gars qui se disputent et qui font un combat de robot, ça me passionne pas beaucoup. Tu vois, c'était pas. J'aimais pas trop. Ou je sais pas.
Ouais, mais
moi,
c'est justement la preuve que la série oublie pas ses personnages et que. Et que justement, l'amitié entre Rusty et Dale qui existe depuis le début, elle est cultivée, elle est amenée à... elle est amenée jusqu'à ces termes-là, ils se séparent, tout ça, c'est un peu comme Harry Potter et Ron, enfin, je trouve ça vachement beau.
De la part de Gris, de nous permettre de vivre ce genre de choses. L'animosité qu'il y avait entre Rusty et Grant, le gars de Calvin.
Mais pourquoi Rusty, il a toutes les raisons de le haïr, mais ce gros connard.
Mais pourquoi, je me souviens plus, qu'est-ce qu'il lui a fait,
ah, il était... Quoi, il l'a scotché contre l'arbre.
Comme tous les autres Omega Kai, ça va quoi, c'est bon.
Non, il est dégueu en plus, le blond là.
Ah non, il est trop dégoûtant. T'as pas vu la fin de l'épisode, il dit des choses super sympas à la fin de l'épisode.
Ah bah oui, ça fait un peu un an et demi qu'il se conduit comme un connard avec tout le monde.
Un connard avec tout le monde, bah écoute, c'est pas facile pour lui.
Ah bah c'est pas facile pour lui, ouais.
Ah bah tu vois bien que toi aussi, il y a des trucs qui te posent problème dans Greek alors, non?
Ah mais non, mais j'aime bien qu'il y ait des personnages que je déteste.
Bah tu vas pas être content alors, parce que il va avoir son capital sympathie va augmenter et ça va t'énerver.
Mais non, ça va prouver que justement les scénaristes de Greek réussissent à faire évoluer les personnages qui nous amènent dans la série. C'est formidable, Greek.
Puis Rebecca,
je suis sûr que les trois spectateurs qui regardent sont ravis aussi. C'est-à-dire vous deux et Tigro.
Ça fait quand même la moitié de la rédaction.
et Iris aussi, elle rattrape.
Bah, c'est bien ce que je dis, Iris. Ah, elle est dans la rédaction, Iris.
Oui, elle est dans la rédaction.
Non.
Tu sais, tu fais même des références à elle dans tes revues. donc voilà. On a quoi, qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Supernatural.
Qu'est-ce qui se passe?
On regarde le programme. Supernatural, Blackie. Il était bien cet épisode cette semaine.
Il était un peu plus supportable, mais il y a toujours. Non, c'est vrai, j'ai un problème avec la saison 5 de
oui,
Supernatural.
Moi aussi.
Donc je vais arrêter de dire. Il faut absolument regarder. Hein, dans ces cas-là, oui, mais les 4 premières saisons. Ouais. Moi, je reste persuadée que c'est à cause de la mort de Kim Manners, qui était le seul adulte du coin, parce que j'ai l'impression de retrouver les scénaristes de la saison 1, ceux qui font un peu tout et n'importe quoi, sauf que là, comme ils ont eu la saison 2, 3 et 4 très très bien développées, il y a eu énormément de choses qui fait qu'ils s'embourbent encore plus, puisqu'ils ont ça maintenant, et ça tourne à n'importe quoi, il y a des épisodes... Il y a des moments, t'as des dialogues qui n'ont rien à faire là. Sam qui va parler comme un frat boy et qui va dire « Ouais, tu vas pas te taper ça, mec. »
Ouais.
Ça, c'est une fille.
Une
toi,
femme
d'habitude, t'es...
dans un asile.
Oui, c'est une jeune femme. D'habitude, t'es un peu plus respectable. Tu dis pas « Yo, mec, à ton frère. » Ça, c'est plutôt ton frangin un peu moins bien éduqué. Enfin...
Ouais. Non, oui.
Ça sort de nulle part, quoi.
Il y a des... Il y a des problèmes dans ce film.
Il y a quoi?
Non, j'avais l'impression que...
Kim Manners, c'est pas juste un réalisateur? Bah, ça va pouvoir être méprisant
il
avec
était un peu... Il était un
mais...
des producteurs juste... exécutifs aussi. Il avait vachement son mot à dire, et c'est lui qui s'est occupé en réalisation, mais aussi à plusieurs niveaux, des meilleurs épisodes de la série, on va dire. Hein. Il a fait des épisodes...
Mais bon, cela dit, après, le dernier épisode, moi, m'a bien plu. J'ai trouvé qu'il avançait bien dans l'arc et de manière beaucoup plus réussie que le faux finale qu'on avait revu.
Voilà,
ce qui était assez horrible,
c'était celui de la semaine dernière.
Celui de la
semaine dernière. On avait voulu faire un papier dessus, on était tellement désespérés en voyant le résultat. C'était hautement mythologique, c'était la suite
de
l'épisode.
Ah oui, avec
le résultat, c'était ce que vous avez écrit ou c'était l'épisode?
Non, c'était les... Non, dis donc, toi avec ta pauvre view annuelle, s'il te plaît.
Non, mais c'était la suite de l'épisode un peu à la Retour vers le futur qu'on avait eu en saison 4. Mm-hmm. Un épisode vraiment formidable.
Qui était très bien, oui, en saison 4.
Très, très bon. On retrouvait donc les parents Winchester quand ils étaient jeunes, etc. Et le problème, c'est que c'était l'équivalent de Terminator 3. Et ils nous ont fait n'importe quoi avec
si,
l'ange.
Voilà,
qui,
comme s'ils n'avaient pas assez cassé de personnages féminins. L'un des rares qu'on avait encore, et bah Anna, c'est ça.
Anna hein. Qui fait n'importe quoi,
voilà.
Qui est maintenant une vilaine. Elle veut tuer le père, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le pousse. Elle le voit, elle le pousse. T'as envie de dire, tu peux pas lui bousiller la nuque, non?
Ça,
quelque
ça
chose.
Réglé.
C'est non, je te donne un petit. Je te pousse.
Boum, je te pousse.
Donc elle l'a poussé 5 fois pendant tout l'épisode.
Et puis elle s'est fait avoir par Michael. Parce que Michael,
oui.
Il peut posséder John Winchester.
Voilà, tu as des histoires de vaisseaux. Oui, mais toi, t'es l'officiel. Mais je peux en avoir d'autres quand même, parce que vous êtes liés par le sang. À part ça, 5 épisodes avant, on a vu que le vilain, il en avait rien à cirer.
Rien du tout.
le blond là de Lost, il a rien à voir, donc c'est complètement incohérent, il y a plein de choses incohérentes. Faut pas non plus trop réfléchir sur le voyage dans le temps, parce que là, comme je dis, oui, c'est comme Terminator 3.
Bah, et c'est l'amnésie. C'est
la... Est-ce qu'il n'y avait pas dans Terminator 3 sur le voyage
dans le temps ? On va pas repartir là-dessus, parce que là, sinon,
oui, c'est pas toute sujet. La nuit.
C'est le Terminator 1 te disait en gros que le futur était prédéfini. En envoyant quelqu'un dans le passé, tu créais ton futur. C'était comme une boucle. Le temps était comme une boucle. Donc rien n'était changé et tu avais créé ce que tu connaissais déjà. C'est un peu ça.
Ce avec que tu le disais pour changer le futur, de toute façon,
c'était
ça,
ce qu'il avait créé. Le futur. Donc en fait, c'est un peu pareil à ce qu'il nous avait fait avec l'épisode de Supernatural, plus ou moins. Ça n'avait rien changé, en tout cas à leur avenir. Là, il y a trop de choses. Enfin, non, t'as eu quand même l'amnésie facile.
Voilà.
Mais c'était un peu, on partait dans tout et n'importe quoi et...
Ouais, non, c'était... Enfin, l'arrivée de Michael, j'ai trouvé ça, mais tellement cheveux sur la soupe, quoi.
Puis les anges, ils peuvent aller si facilement dans le passé, dans ces cas-là, ils auraient pu y aller 150 fois. Pourquoi tuer forcément les parents ? Pourquoi les tuer avant la naissance de Dean ?
Et puis pourquoi ils n'empêchent pas l'arrivée de Lucifer si c'est si facile
que... Voilà, parce que...
C'est trop facile après.
Pour résumer à ceux qui ne comprennent pas,
oui, pardon.
On a un personnage qui va dans le passé pour tuer la mère de Sam avant qu'il naisse.
Voilà.
Pourquoi ils veulent tuer la
Voilà, il va provoquer l'apocalypse, il a fait plein de conneries.
Et Dean, c'est le vaisseau de Michael qui est
dedans. Pourquoi tu pas justement Dean quand il a 3 ans ?
Non.
Bah, justement, il retourne dans le passé avant même que l'aîné soit né. Alors que l'aîné est censé être le
seul. Dommage collatéral.
Voilà, donc t'as envie de dire, tu peux pas aller entre les deux. Si t'as envie de garder l'aîné, pourquoi tuer la mère avant qu'elle l'ait pondue ? Pourquoi ne pas tuer Sam quand il est petit, quand il a 3 ans, voilà. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Alors que quand on avait eu un premier épisode de ce style, l'an dernier, c'était vraiment un moment clé. C'était le moment qui avait vraiment déterminé la destinée des frangins. Donc là oui, c'était important. Ça avait même déterminé toute la série. On était reparti sur le gros méchant de la saison 1 aux yeux jaunes, enfin... Ça avait vraiment du sens. Là, ça avait aucun sens. Donc, effectivement, cette semaine, avec un épisode un peu plus banal, c'est sûr que ça a remonté le niveau.
T'es bien foutu quand même sur l'addiction de Sam au sang et tout. Moi, j'ai bien aimé.
Oui, mais le problème, comme moi, avec Castiel, l'ange, là, c'est que depuis qu'il est là, on nous force un peu trop souvent et on nous met en équipe avec Dean.
Ça serait bien qu'il meure.
Ce qui fait que, oui.
Ça serait bien qu'il meure dans une mort tragique, réussie.
Se séparés. Et en gros, on a un buddy movie avec l'ange et puis l'autre, le préféré de tout le monde. Quoi.
Sinon, vous n'avez pas vu cette horrible série qui a commencé sur la CW, qui est Life Unexpected ?
Ouais, moi je regarde ça quand je connais mes copines.
Tes transitions sont magnifiques, je tiens à le dire.
Merci beaucoup, c'est la CW. Et c'est assez horrible, hein, comme série.
Bah,
enfin, c'est
un
pas
prétexte d'un
insupportable non plus,
d'un pitch un peu marrant. Enfin, qui était comment refaire une série à la Gilmore Girls avec des parents relativement jeunes et une gamine de 16 ans.
Elle, je la déteste déjà. C'est...
Qui ?
Bah, la gamine de 16 ans.
Bah,
moi, la blonde, c'est la seule que je supporte dans la série.
Ah ouais, c'est marrant.
Bah, c'est la seule qui a des réactions adultes, ou en tout cas des réactions conformes avec son âge.
Comme quoi. Prendre le micro pour dénoncer le fait que ses parents adoptifs sont en couple alors qu'ils prétendent ne pas l'être dans leur émission de radio, c'est super mature.
Bah, c'est super mature, sauf que bon, bah, elle a 16 ans et elle entend des conseils sur la vérité, sur l'honnêteté, qu'on la gaffe de ça depuis qu'elle a rencontré ses parents biologiques. Moi j'étais trop content qu'elle fasse ça. Bien fait pour sa gueule à sa mère, que je déteste là. De toute façon, ça n'a aucun intérêt, c'est. Je m'enflamme alors que fondamentalement c'est juste en fond visuel et sonore quand j'ai autre chose à faire. C'est un peu comme Damages.
Damages. C'est tellement drôle.
Qui n'a plus aucun intérêt.
Non, aucun. À part ces fins rigolotes où la musique pète un câble et où le monteur s'amuse à faire des effets.
Mais
complètement
pareil, foireux. Il faut que j'arrive à m'habituer au silence et pas à le remplir avec des trucs nuls.
Bah oui, non, mais moi je vais continuer de regarder Damages, hein, parce que ça me divertit, mais c'est assez, c'est triste, quoi. Je pense que j'en ferai une review pour toute la saison, Mais la saison 2 était vraiment catastrophique, de toute façon. Moi, j'avais passé un très mauvais moment. Et puis en plus, quand je pense que je m'étais lancé à revivre toute la saison, je sais pas comment j'ai fait pour tenir, parce qu'il se passait rien. Et puis c'était vraiment débile. Et puis moche. C'est moche en plus comme série.
Boisser les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup moins de séries pendant 15 jours.
Il va pas y avoir plus belle Alors, pendant 2 semaines.
Non, mais bon, quand le podcast sera publié, vous saurez, hein, vous saurez qu'il y a dans la semaine à nous, là. Comment ça s'appelle cette rubrique là?
Vous l'aurez vu.
Ma semaine à nous.
Ben, je sais pas, on n'en est pas encore bien sûr hein, que ce texte va paraître. Parce que... Mais pendant des années, moi j'ai pas eu le droit d'écrire sur Survivor parce que c'est pas dans la ligne éditoriale. Perdusa, c'est vrai que sa ligne éditoriale est un peu plus fluide, un peu plus.
Ouverte.
Mais un texte sur Plus belle la vie.
Survivor, c'est pas pareil. Survivor, c'est la plus grosse influence de la décennie sur la télévision américaine. Donc c'est important d'en parler.
Parce que le truc, c'est que, tu vois, Perdusa, c'est. C'est la suite de en direct des États-Unis.
Oui, enfin.
C'est pas en direct de la télé française.
Ouais, ben on a parlé de l'Angleterre, on a parlé de l'Australie, bah laissez-moi tranquille, moi c'était mon événement.
Après le pape, c'est Jeff Probst, hein, le plus. la grande idole des États-Unis.
Mais je critique pas, vu que sur Survivor.
Le pape, Jeff et ensuite Obama.
Mais si ça se trouve, un jour je m'y mettrai sur Survivor, j'adorerais. Qui sait?
Bah c'est pour ça que j'ai essayé de te. Tu peux regarder tout à l'heure.
Ça sera pas la première chose que tu me feras regarder, donc. Hein. Continue donc, tu verras, ça marchera peut-être. Donc oui, hein? Parce que tu voulais qu'on.
Il se passe des choses, ça va trop, trop.
J'ai un peu une influence sur ce que regarde Tom.
Oui, un petit peu.
Sur ce qu'il lit, sur ce qu'il mange.
Voilà. C'est un peu mon maître Jedi, Blacky. Donc GG, t'es dans
donc c'est pour les faire Jeux une conclusion. Olympiques. Pour faire une conclusion, c'est les Jeux Olympiques. Pendant 15 jours, va pas y avoir de série sauf sur CBS
et un petit peu sur Fox, je crois.
Et FX. FX.
Il y a quoi sur
si 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 si, il y a des trucs sur le câble, des trucs du câble continu. Donc
au mois de mars, il n'y aura pas grand-chose.
Big Love ne s'interrompt pas, c'est une bonne nouvelle.
C'est pas intéressant.
Non.
Si si, au mois de mars, si si, ça s'interrompt.
Non, Big Love, ça s'interrompt pas.
Blacky revérifie les infos.
Pourquoi ça s'interromprait au mois de mars? Qu'est-ce qu'il y a au mois de mars?
C'est pas les Jeux
Olympiques. Je sais pas, mais en tout cas, au mois de mars, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je te jure.
Mais il y a Big Love, c'est sûr. Il y a eu Big Love le dimanche du Super Bowl. Il y a Big Love cette semaine, qui est le troisième jour
Big
de...
Big Love, et à partir du 15.
Non, mais c'est juste que le site, il n'a pas été actualisé. Mmh. Mais si. Regarde, regarde, va au mois de mai.
Oui, non, mais je sais, après le mois d'avril, ils ont rien, je sais.
Elle m'inquiète un peu. Hein. Vous m'inquiétez un peu tous les deux dans votre dynamique un peu bizarre. Bon,
je
bref.
Je t'inquiète facilement ouais. Quand même.
Bon, on parlait des Jeux Olympiques. Il va y avoir de séries pendant 15 jours quasiment à la télévision, sauf The Good Wife et Survivor sur CBS. Alors, comment allez-vous occuper votre temps? C'est-à-dire que, un, il va falloir me donner une série que vous allez regarder, donc vous allez profiter de ce temps libre pour rattraper votre retard dessus. Vous avez les mots de la phrase, maintenant vous les mettez dans le bon ordre, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et puis vous donner un conseil aussi aux gens qui ne sauraient pas quoi regarder et qui auraient 15 jours pour ne plus passer à côté de l'immanquable, c'est-à-dire que Blacky, tu ne parles ni de Glee ni de Supernatural.
Pourquoi je parlerais de Glee?
En général, quand tu donnes un conseil et que tu conseilles aux gens de regarder une série,
c'est pas en général.
Trois semaines après, c'est devenu une bouse énorme.
Je me suis plantée une seule fois dans ma vie avec Glee. Hein, à chaque fois que j'ai conseillé des bons trucs, sinon c'était toujours très bien.
Avec Glee, Supernatural, enfin en même temps,
Supernatural, si, je conseillerais toujours, mais soyons honnêtes, la dernière saison est beaucoup moins bonne.
Est-ce que tu pourrais conseiller une série qui ne passe pas sur la CW? Ah, défi un peu délicat. Ah,
série ou émission feuilletonnante qui se suit?
Série.
Ouais, on n'a pas le droit de parler de Survivor et des anciennes saisons, même si on voulait en parler, si on avait le droit. Quelle saison tu
peux... En ce moment, c'est vrai que je regarde beaucoup de comédies. Donc oui, rattrapez toutes les comédies que vous pouvez. La vieille Christine, The Middle, Modern Family... The Community, allez-y, pas de problème. Community. Oui, non, j'étais prête à dire en fait autre chose, mais non. Et en drame, malheureusement, je regarde beaucoup de Formule à chaud, donc pas du tout immanquable, hein, c'est sympathique, mais tout ce qui est Bones, Castle, etc. Medium, j'ai bien dit, mais The Medium, The Castle,
The Dollhouse.
Voilà, c'est pas immanquable, donc je vais pas non plus les conseiller non plus. Non, c'est vrai qu'il y a rien d'extraordinaire de gros drame que je suis et qui n'est pas sur la CW.
Et tu vas rattraper quoi ?
Je vais rattraper The Good Wife, puisque justement, c'est un gros drame feuilletonnant. Un peu le seul actuel, on va dire.
De qualité.
Marquant. Ah,
vraiment.
Voilà. Et sinon, mais non, mais il y a plein de joueurs de Survivor actuellement. Enfin, il y en a 2-3 que je ne connais pas. Je suis obligée de rattraper leur saison. Et puis de toute façon, comme je n'arrête pas de le dire, ça fait partie de la culture américaine. C'est mon devoir de sériephile. De spécialiste en télé américaine.
La saison 1 aussi.
J'avais commencé la saison 1, c'est un peu plus dur.
Bah c'est plus dur, mais c'est vraiment.
C'était vraiment. Bon, en plus, c'est vrai que je savais déjà qui allait
t'as
gagner.
T'as vu celui qui vote
dans l'ordre alphabétique.
Dans l'ordre alphabétique.
J'étais pas encore.
C'est dur, toi, hein, tu m'as rattrapé de quoi, Gégé ?
Moi, j'ai peut-être. Déjà, je vais terminer Sons of Anarchy. Série à côté de laquelle toute la rédaction de Perdusa est passée, à côté.
Mais peut-être que je vais t'écouter là-dessus.
Et
aussi.
J'avais vu une photo là, de Cathy Segal avec ses bottes
voilà,
et tout
rien
ça.
Pour elle.
Ça m'avait bien plu quand même quand je m'étais rendu compte qu'elle allait tout se passer à côté. Et bah ouais, la série tient vraiment bien ses promesses. C'est Friday Night Lights, moi aussi. Hein. C'est Friday Night Lights à la sauce motard trafiquant d'armes, c'est-à-dire ça se passe dans une petite ville. Je sais même pas dans quel état ça peut bien se situer, mais bon, un état un peu raciste, un peu crade.
L'Utah ?
Enfin, ah non. Dans l'Utah, c'est les Mormons, ils sont tous merveilleux, ils sont tous beaux et tout. Sauf le nouveau prophète qui est. Il est dégueulasse et il sort avec un type qui est vachement beau. Donc c'est le seul truc qui crée un peu dans Big Love. Mais
attends,
je m'écarte un peu.
Il y a deux mecs qui sortent ensemble dans Big Love.
Ça, je vais rattraper mon retard sur Big Love tout de suite.
Ah non, mais le type, il a une tête de crapaud immonde. Non. Mais après, ils se sentent vachement coupables. Ils sont mariés,
oui,
hein, tout ça, ils ont des enfants.
Ah.
Puis
c'est pas un péché
Si. Mais alors, attends, ils ont trouvé une façon de pouvoir vivre avec, c'est-à-dire que bon, bah. Ah oui, c'est pas grave, ils seront pas homosexuels au paradis, donc. donc ils vont pouvoir quand même y aller.
Belle excuse.
Non, ouais, finir Sons of Anarchy et puis regarder ce truc là avec des ados, ça devrait te plaire là. Freaks and Geeks, apparemment c'est bien, on m'a
mais oui.
C'est Blagui, ça fait combien de temps que tu as regardé ça déjà ?
Bien avant toi déjà.
Bah voilà, c'est elle qui m'a fait découvrir il y a déjà un petit moment. Donc
Mais je sais, Fertis en a toujours beaucoup parlé.
Mais oui.
Apparemment, c'est pas mal.
C'est très,
c'est
très
vraiment
bien.
Très bon.
Puis il n'y a pas beaucoup d'épisodes.
Non, il y en a 18. Et ben moi, je vais terminer mon retard sur Breaking Bad. Presque fini pour être à jour au moment de la saison 3. Et puis Baby Love, ouais, et puis je fais tout comme les autres.
Ça va te faire beaucoup parce que Big Love, ils en sont à la saison 3 ou 4.
Oui, mais comme apparemment il n'y a pas grand chose en mars en même temps, il va bien falloir combler.
Non, mais alors ça, c'est.
T'as
ça,
déjà
c'est,
pas mal de
c'est
choses
à faire. Qui n'a pas compris qu'elle a regardé son petit logiciel. Ils ont pas mis à jour les séries qui passaient au mois de mars. Et donc elle se dit, oh bah il n'y a rien. Mais c'est comment En mai 2010, il n'y a rien. Donc
tu dis qu'il n'y a rien parce que la CW, elle est en pause jusqu'à fin mars. Donc si la CW est en pause, c'est
que
qu'il y a
les séries s'arrêtent de façon définitive à la télé américaine.
S'il n'y a pas la CW.
C'est la nouvelle grève.
Elle me regarde. Bon, sur ces belles paroles, on va vous laisser regarder des séries télé, lire des reviews. Vous avez vu qu'on a écrit énormément de reviews cette semaine.
On se débrouille bien, hein.
Voilà.
Quand même.
Ça va vachement bien. Tout le monde a écrit, sauf.
Sauf qui ?
Sauf
Fertis.
Ah,
oui.
Mais on peut pas outer les gens.
Et Dorame.
Ah ouais. Oh.
Mais c'est pas grave, ils écriront pendant les Jeux Olympiques.
Exactement.
Au revoir.
À la prochaine.
Joss Whedon, il n'a pas inventé un mot pour dire au revoir qui ferait vraiment super geek, un
crade.
Non, ça producer. C'est... T'as Stan Lee plutôt.
Quoi?
Stan Lee, il disait toujours au revoir en disant... je sais plus quoi.
Eh, on a trouvé super fin pour le podcast.
Excelsius, il disait toujours Excelsius.
Nabucodonosor.